ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires. Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires. Une émission proposée par le conteur Michel Lidoux. Des histoires, des contes, des reportages, des informations. Bref, enfin tout ce qu'il faut savoir quand on aime les histoires.
Amis des histoires, bonsoir ou bonjour. Pour cette nouvelle émission, j'ai décidé de la consacrer à Monsieur Pierre Jacques Elias, poète, journaliste, homme de lettres, écrivain en langue bretonne et française. Pierre Jacques Elias est né le 17 février 1914 et il est décédé le 13 août 1995. Il y a donc 25 ans que ce merveilleux poète s'en est allé rejoindre le pays des légendes éternelles. Oh, je ne vais pas me lancer dans une biographie longue et ennuyeuse. Vous trouverez suffisamment d'infos sur son œuvre en cherchant un tout petit peu sur le net. Je ne vais pas non plus vous parler de ce livre, « Le cheval d'orgueil », qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, qui a été traduit dans une dizaine de langues. Non. Moi, c'est le conteur et petit-fils de conteur que j'aimerais vous faire découvrir, avec ses merveilleux contes traditionnels qui ont bercé son enfance et entendu par ses deux grands-pères, Alain Elias, le sabotier, conteur de merveilles, et Alain Le Goff, qui ne cessait pas de prendre la réalité en flagrant délit de mensonge, comme tous les conteurs qui usent des enchantements de la parole. Et pour cela, eh bien, je vais laisser la parole à celui qui peut le mieux en parler, Monsieur Pierre Jacques Elias lui-même.
C'est mon grand-père, Le Goff, le sage grand-père, qui m'a éduqué en réalité. Il y avait deux personnes, enfin du moins dans le pays qui était le mien, deux personnes qui étaient vraiment des gens qui parlaient bien, qui respiraient bien, que l'on comprenait bien. C'était le curé à l'église et le conteur. Et le conteur avait une réputation d'être un petit peu païen sur les bords. Et mon grand-père jouait avec le feu. Il parlait au feu et le feu lui répondait. Et quelquefois, on avait besoin de bois sec parce que le conteur avait besoin d'entendre craquer le bois. Et il s'adressait aux auditeurs et leur disait « Écoutez-le, hein ? Oh là là, il a un mauvais caractère celui-là. Hein ? Écoutez-le. » Et là, on entendait le... Et tout le monde disait effectivement, oui, il n'est pas très supportable ce feu. Bien entendu, inutile de vous dire que mon grand-père était aussi un républicain laïque. Hein. Et il y en avait d'autres qui, pas dans le pays Bigouda, j'en ai pas connu, mais ailleurs, il y en avait qui étaient du côté de l'église, nettement, quoi. Hein.
Oui, quand on n'arrivait pas à avoir le silence, le conteur refusait de commencer à compter. Il lui fallait un silence absolument total. Hein. Et j'ai vu deux fois mon grand-père partir, comme ça. Les gens couraient après lui en disant « Revenez donc, on va faire avoir le silence, on va mettre dehors cet homme qui fait du bruit dans le fond de la salle, ou bien le bébé, eh bien, on va dire à sa mère de l'expédier ailleurs. » Et le grand-père ne revenait pas, n'est jamais revenu. Il disait, moi je veux bien, je suis un pauvre diable de conteur. Enfin, c'est le comte qui ne veut pas revenir. Argon chez Néo, n'est fait le qu'il aille dans l'endro. Voilà.
Il n'y avait rien à faire.
Il arrivait, demandait à mon grand-père lequel était en rayon, de sabotier, hein. Et il avait, le riche avait mis ses souliers, il avait bien assisté ses souliers, il avait son meilleur chapeau, et tout ça. Il venait de demander bien gentiment à mon grand-père d'aller compter les merveilles chez lui, de ce grand Burzudu, hein. Et mon grand-père le faisait mariner dans son jus pendant quelques dizaines de secondes. Parce que... Alors l'autre se disait, ça y est, s'il ne vient pas, tout le monde va le savoir demain. On va dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé après l'Inselec, etc. Et il me regardait et il disait, nous verrons. Nous verrons, ça signifie oui. Et je me demande, je me pose toujours la question, si une partie de l'influence qu'il pouvait avoir, aussi bien sur les riches que sur les pauvres, ne venait pas justement de son dénuement. S'il avait été riche, je me demande si un riche aurait pu réussir à devenir conteur. C'est pas sûr.
Avec trois amis, conteurs et conteuses, nous avons puisé dans nos répertoires respectifs des histoires issues des écrits de Pierre Jacques Elias. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Sophie Lénévez. Sophie est une conteuse bretonne. Elle raconte depuis 12 ans. Sophie aime s'aventurer dans la forêt des contes et y recueillir au creux de ses mains les histoires tissées de vie et de sagesse. Et avec le sourire au cœur, elle les offre à ceux qui, l'espace d'une racontée, cheminent avec elle. Et là, maintenant, elle vous offre le conte « Grain de folie ».
Quand Jeanne a su qu'elle était enceinte, elle a couru vers l'océan. Elle a mis ses mains sur son ventre et elle a crié « Mon ventre prend vie !» Elle a regardé la mère et elle a fait le vœu de l'aimer son petit, comme une mère louve, envers et contre tout. Elle est allée sur le chemin de Pénorce. à la rencontre de son homme. Jean aux sabots légers, celui qui a des sacs de rêves plein la tête. Lui, quand il l'a vue au bout du chemin, il l'a trouvée si belle. Il était comme à chaque fois étonné d'être aimé par elle, étonné qu'elle l'ait choisi avec son amour instinctif, presque sauvage. Elle a couru vers lui. Elle a sauté dans ses bras et déployé son secret en riant. Alors lui, il l'a fait tournoyer et leurs rires se sont mêlés, mélangés, envolés. Le soir, dans le lit clos, tendrement enlacés, ils ont parlé de ce petit être qui les avait choisis. Ah ça, ça leur plaisait comme idée, que ce soit l'enfant qui les ait choisis comme parents. Elle, la fille sans mère, qui avait été élevée à tour de rôle par les familles de Pouldreuzic, et lui, qui n'avait pas eu le droit de prendre la mère et qui depuis voyageait dans sa tête. Quand leur petit bonhomme a montré le bout de son nez, oh, il était beau. Jeanne, elle a adoré le sentir peau à peau. Elle a aimé quand il se fouissait pour boire son lait. Et là, elle sentait son odeur, sucrée, douce. Lui, il était pâteau quand il tenait le bébé dans ses deux grandes mains. Mais à l'intérieur, ça le faisait grandir. Leur petit Jean, c'était un bébé tout calme. Pendant sa toilette, Jeanne, elle aimait bien le dévorer de baisers. Mais il riait pas. Elle aimait aussi lui raconter l'histoire du petit lièvre qui broute dans le pré de la main et qui s'échappe des cinq doigts en riant vers le nombril. Mais ça non plus, ça le faisait pas rire. La vieille Louise, elle est venue les voir. Et quand elle a vu que ce bébé était si sérieux, alors en riant, elle a dit « Oh, votre petit bonhomme, c'est comme si à sa naissance, quand l'ange est venu et qu'il a posé son doigt sur ses lèvres, c'est comme s'il n'a pas oublié les secrets du monde, mais juste qu'il ne peut pas les dire. » Quand il a commencé à marcher, Jeanne, elle lui montrait la forme des nuages. Elle lui montrait le petit chat qui jouait avec une mèche de chanvre. Les premiers rayons de soleil d'avril, quand ça vous chatouille la peau. L'écume de la mer qui fait lécher les pieds. Mais son petit Jean, il restait tout sérieux. Pourtant, elle lisait l'amour dans les yeux de son petit. Alors elle riait pour deux. À l'école, on l'appelait le Corrigan à l'âme de vieux. C'est vrai qu'il jouait pas à la marelle, ni à grimper aux arbres, ni à courir la campagne en bande d'amis. Lui, il restait sagement assis devant sa maison. Un jour, il a trouvé un oiseau blessé. Il l'a soigné et mis dans une cage. Il lui chuchotait des mots à voix basse. Quand l'oiseau a été guéri, petit Jean ne voulait pas qu'il voltige dans la cage en donnant des coups de tête dans les barreaux. Alors son père lui a parlé de la liberté, du besoin de cet oiseau de s'envoler. Mais petit Jean n'y comprenait pas. À l'approche de Noël, comme chaque année, Jeanne est allée à Plonéour-l'Anverne pour vendre les dentelles qu'elle avait fabriquées pendant les veillées. Elle a vu dans une boutique une orange de Noël. Et elle s'est dit que ce fruit donnerait peut-être un sourire à son garçon. Et à ce moment-là, il y a une femme assez étrange qui est sortie de sous un porche. Elle portait une coiffe différente de celle des femmes de Plonéour. Elle a pris la main de Jeanne. Elle a posé dans sa main une graine couleur de cendre, attachée dans un lacet de cuir. Ce qu'il lui faut à ton petit bonhomme, Jeanne, c'est un grain de folie. Et puis la femme, elle a disparu. Jeanne, elle est restée toute seule dans la rue, avec le collier au bout de ses doigts. La veille de Noël, elle a posé la graine dans le sabot de petit Jean. Et le matin de Noël, lui, il a pris le collier et il l'a mis autour de son cou. Et pour la première fois, Jeanne et Jean, ils ont entendu son rire. Le petit Jean, il s'est mis à tourner, à sauter, en chantant les comptines et les chansons qu'il avait entendues depuis qu'il était tout petit. Il a grimpé sur le dos de son père, qui l'a fait trotter comme un cheval, et il riait aux éclats. Il a dansé une gavotte avec sa mère, qui riait à gorge déployée. Il a pris son manteau. Il est sorti dehors et il est allé chercher tous les petits voisins. Et avec eux, il a joué à colin-maillard, à grimper aux arbres. Quand il est rentré, ses joues, elles étaient rouges comme deux pommes. Et Jeanne, elle a fait mine de les croquer. Et ça les a fait rire tous les deux. Avant de se coucher, petit Jean, il a ouvert la cage. Il a ouvert la fenêtre de sa chambre et l'oiseau s'est envolé. Le lendemain matin, le jardin était tout blanc. Il avait neigé pendant la nuit. Alors il s'est dépêché de déjeuner pour aller retrouver ses amis et jouer dans la neige avec eux. En traversant le verger, il a trouvé son oiseau tout raidi sur une branche. Alors il a grimpé à l'arbre pour l'attraper et il a entendu des tout petits battements de cœur. Il a déboutonné sa chemise et il a mis l'oiseau contre sa peau pour le réchauffer. Et l'oiseau est revenu à la vie, et comme il avait très faim, il a mangé la graine couleur de cendre. Et il s'est envolé. À ce moment-là, petit Jean a senti retomber sur ses épaules tout le poids de la sagesse. Il est rentré dans sa chambre. Les enfants l'appelaient, mais lui, il les entendait plus. Il s'est assis devant la cage, vide. Et l'oiseau est revenu. Et il s'est glissé tout seul dans la cage. Il avait l'air vieux, cet oiseau. On dit que la folie des hommes, c'est la sagesse des oiseaux. Et quand un oiseau devient trop sage, il perd même le goût de la liberté. Quand Jeanne est entrée dans la chambre, petit Jean et l'oiseau se regardaient. Elle a vu le visage grave de son garçon. Alors elle l'a pris contre elle. Et avec une infinie tendresse, elle lui a murmuré « Aujourd'hui, je t'ai donné une graine de rêve, mon garçon. J'ai voulu bousculer le temps, mais ton temps à toi, il est infini. » Plus tard, petit Jean a reçu le don de comprendre le langage des pierres. Et ce jour-là, il a entendu le chant du monde.
Des histoires.
Vous écoutez Ça va faire des histoires, une émission de Michel Vitoux.
Tout le monde sur cette île connaissait Jean. Tout le monde sur cette île du bout du monde, au bout du Finistère, connaissait Jean, le petit Jean. Jean, il n'allait pas à l'école. Non, Jean, tous les jours, il passait sa journée dans la nature. Jean, lui, ce qu'il aimait, c'était écouter. Écouter les sons de l'univers qui produisaient pour lui une musique absolument divine. Le glouglou d'un ruisseau, pour lui, c'était une chanson. Le bruissement du vent dans les arbres, Jean entendait une mélodie. Quelquefois, on retrouvait Jean endormi dans un trou qu'il avait creusé lui-même dans le sable sur la plage. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait. Il répondait que c'est parce qu'il écoutait la musique était vague, qu'il écoutait le chant extraordinaire des mouettes. Et un jour, il a même dit qu'il écoutait parler les pierres. Alors là, on s'est dit que Jean, c'était encore un de ces demeurés, un de ces idiots du village, un simple d'esprit, comme il y en avait beaucoup malheureusement à l'époque. Mais il n'était pas méchant, Jean. Et puis les hommes avaient d'autres préoccupations. Parce que figurez-vous que sur cette île-là, le vent qui soufflait en permanence, ce vent chargé d'embrun salé, avait la fâcheuse habitude de brûler toutes les plantations que l'on pouvait faire autour de l'île. Alors, pour pallier à cet inconvénient, les hommes ont eu l'idée de bâtir des petits murs de pierre sèche, des petits murs qui tiennent comme ça, sans ciment, sans rien. On en voit encore quelques-uns du côté de Molène ou de Ouessant. Des petits murs de pierre sèche dont la principale utilité est d'abriter les cultures. Et le problème fondamental avec ces murs de pierre, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un coup de vent, les pierres étaient par terre. Alors, il fallait reconstruire, inlassablement reconstruire ces petits murs de pierre. Et un jour que les hommes étaient occupés à rebâtir un de ces murs, le petit Jean est arrivé. Il les a regardés faire, et puis il s'est écrié : « Mais non, 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 ne mettez pas cette pierre-là, je l'entends qui se plaint. » Ah, c'est toi, Jean. Sacré Jean, là. Ah, c'est Jean. Jean, le Guénouec, là. Sacré Jean. Alors, dis-moi, Jean, alors, je la mets où, ma pierre, hein, Jean? Tu la mets tout en haut du mur. Elle, ce qu'elle veut, c'est voir la mer. Oh, bon, ben, on va la mettre, Jean. Tiens, voilà, je l'ai mis tout en haut, hein. Tu es content, Jean? Bon. Alors, maintenant, s'il te plaît, Jean, va jouer parce que nous, on a du travail, hein? Allez, va jouer, mignon. Et Jean est parti. Et cette nuit-là, le vent a soufflé, soufflé, soufflé. Tous les murs de l'île ont été soufflés, sauf un mur. Le mur que Jean avait conseillé. Alors, les hommes se sont regardés, se sont entretenus et s'il avait un don. Le plus ancien a dit « Moi, je veux en avoir le cœur net. Jean, tu viens avec moi, on va construire un mur ensemble. » Et sur les conseils de Jean, l'homme a bâti ce mur. Oui, la grosse pierre plate, là, celle-là, tu la laisses sur le sol. Elle est forte. Elle, ce qu'elle veut, c'est porter les autres. Oh, la blanche et la grise, là, surtout ne les sépare pas. Elles se connaissent depuis si longtemps et elles ont tellement de choses à se dire. Et ainsi de suite, sur les conseils de Jean, l'homme a construit ce mur qui a résisté à tous les vents et à toutes les tempêtes. Cette fois, c'était sûr, Jean avait un don. Et cette fois, il n'était plus question de construire un mur sans les conseils de Jean. Ça y est, Jean avait une utilité très importante. Jean avait trouvé sa voie. Jean était devenu un personnage important et on ne bâtissait plus un mur sans les conseils de Jean. Il était même devenu tellement important qu'il faisait un peu sa tête de cochon quelquefois. Et il lui arrivait de répondre « Revenez demain matin à 7h17, là le vent sera bon, pas avant, pas après ». Eh bien, on attendait. On attendait le lendemain matin, parce qu'il n'était pas question de construire un mur, maintenant, sans les conseils de Jean. Et puis les hommes, du coup, avaient beaucoup plus de temps pour vaquer à leurs occupations, la pêche, la culture, enfin les choses allaient mieux sur cette île. Et le temps a fait son travail. Les années ont passé et Jean est devenu un honorable vieillard. Et un jour qu'il était là encore à construire un de ses murs, on a vu Jean, le vieux Jean, se pencher, coller son oreille sur une pierre et se redresser en disant « Non, non, là, je n'entends plus rien. Je n'entends rien, je deviens sourd, c'est fini. Mon don a disparu, c'est fini. Je deviens sourd, j'arrête. » Alors il a fallu reconstruire tous ces murs, comme avant, ces murs qui s'écroulaient à chaque coup de vent. Et Jean, lui, le vieux Jean, s'était enfermé dans sa chambre. Il ne sortait plus, il ne parlait plus à personne. Jean allait très mal. Et un soir que l'on avait encore construit un de ces murs sur la pointe ouest de l'île, il y avait Jean. Jean dans sa chambre qui entendait le vent qui soufflait, la tempête qui s'était levée. Jean qui tournait en rond en grommelant. Je l'entends qui se plaint. Je l'entends là-bas. Je l'entends cette pierre qui se plaint. Il faut que j'y aille. Elle m'appelle. Je l'entends. Et là, la fille de Jean est rentrée dans la chambre. Elle a dit « Non, papa. » Tu peux pas sortir comme ça. Avec ce temps, tu vas attraper la mort. » C'était trop tard. Jean avait déjà enfilé son vieux caban. Il avait vissé son béret sur sa tête, ouvert la porte. Il s'est engouffré dans le vent, dans la tempête, dans la nuit noire, en direction de la pointe ouest, là-bas où on avait construit le dernier mur. Le lendemain, la fille de Jean a constaté que Jean n'avait pas dormi dans son lit. Alors, mue par un terrible pressentiment, elle est allée au village, elle a dit que Jean n'avait pas dormi dans son lit et qu'elle avait peur que quelque chose soit arrivé. Les hommes se sont regardés et se sont tous dirigés vers la pointe ouest de l'île, là-bas où on avait construit le dernier mur. Quand ils sont arrivés, toutes les pierres étaient par terre. Et quand on a retiré les pierres, on a vu que Jean dormait de son dernier sommeil. Et quand on s'est rapproché encore, on a vu que Jean tenait serré contre son cœur une pierre. Une pierre. Et moi, je sais que cette pierre-là, c'était la pierre qui se plaignait.
On nose me cleave and I have a lovely shawl for lay on tea. Because on nose me cleave and I have a lovely shawl for lay on tea. I feel a very crazy time. Alone I'm gone, I don't know long. Can it be on? Can I conquer the sea? You saw it, I was a novel of pleasure, whirling on the sea. You saw it, pechwis an na velo vleishal war leinanti. Avel, avel, ikwez eta. Alon em gan adan taulon, kan i buon, kan ar fankis de honni. Diu sa horno ke khwe san na velo vleja war leñan ti Diu sa horno ke khwe san na velo vleja war leñan ti Ave la veri khwe di ta Alon am gan adan taulon Kan i buon, kan ar fankis de honni Diu san douar i chwe san avelo Vleishat war leñan ti Diu san douar i chwe san avelo Vleishat war leñan ti Ave la veri quesita Alon em gan adan taulon Kan i buon kan ar fankis de honni Diu sar mour bras e chwe san avelo Vleishal war leñan ti Diu sar mour bras e chwe san avelo Vleishal war leñan ti Ave la veri quesita Alon em gan adan taulon Kan i buon kan ar fankis de honni De ven pedu e chwe san avel brau Eo bev an bars an ti De ven pedu e chwe san avel brau Eo bev an bars an ti Avel avel e chwe zita Alon em gan adan taulon Kan i buon kan ar fankis de honni Ave la veri quesita Alon em gan adan taulon Kan i buon kan ar fankis de honni
Et maintenant, je vous propose d'écouter Alain Bénédictus. Alain est conteur breton et membre et animateur d'ateliers contes au sein de la Mission bretonne de Paris depuis 22 ans. Alain est aussi à l'origine du festival Contes et Merveilles qui permet à de nombreux conteurs invités de se produire à la Mission bretonne. Alain nous raconte Philopène.
Il était une fois un homme qui vivait seul dans une petite cabane qui était faite de bois d'épave. Cet homme, il s'appelait Philopène. Les gens du village disaient que seul le vent habitait dans sa tête. Et Philopène, c'était un homme, tout simplement. Mais il était aussi grand, aussi fort, aussi puissant, aussi large, aussi moussu qu'un chêne centenaire. Et tous les matins, on le voyait qui sortait de sa cabane avec un croc à la recherche de nourriture. Il courait sur les rochers en poussant des cris. Ça faisait « on, 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 on ». Et ce jour-là, lorsqu'il a regardé la mer, Il a compris. C'était la tempête. La mer était déchaînée. Les vagues montaient de l'enfer vers le ciel et redescendaient du ciel vers l'enfer à la vitesse des chevaux-bois d'un manège infernal. Le vent hurlait sa colère sur la plage. Les galets explosaient comme 1000 coups de canon. Et tous les gens du village étaient regroupés sur la jetée là-bas, tout au bout. Ils regardaient un spectacle qui était plus beau, mais plus triste que la tempête. Celui d'un navire qui était en train de couler au large. Si les Bretons ont toujours porté secours, souvent la nature est plus forte. Et la seule aide que l'on peut apporter, c'est celle de la prière. Philopon s'est joint à eux. Mais le lendemain, lorsqu'il est sorti de chez lui, la tempête s'était calmée. La mer redescendait. Philopon a commencé à ramasser des coquillages. Quand soudain, il a senti comme une présence derrière lui. Il s'est retourné. Et venant du fond de la mer, il a aperçu une jeune femme avec de longs cheveux blonds qui lui tombaient sur les épaules. Une robe blanche qui n'était même pas mouillée. Elle était aussi belle qu'un lever de soleil à l'aube d'un jour d'hiver. Lorsqu'il a voulu aller vers elle, elle s'est retournée et elle est repartie vers le large. Philopon alors a pris ses instruments. Il est retourné chez lui et il l'a fait en prenant soin d'enfoncer lentement, bien profondément, un à un, ses pieds de géant dans la vase et dans le sable. Et quelque temps après, toc toc toc, Philopon a ouvert la porte. C'était la jeune femme. Elle avait suivi ses pas dans le sable. Elle est entrée. Et Philopon et elle vont vivre une grande histoire d'amour pendant plus de 20 ans. Quelquefois, on les voyait qui parcouraient la grève ensemble à la recherche de nourriture. Et les gens du village ont même vu Philopon qui descendait la grande rue avec sa femme sur son épaule. Vous vous rendez compte? Sa femme sur son épaule. Ce jour-là, un des pêcheurs avait rendez-vous avec lui pour aller ramasser le goémon. Et quand il est arrivé sur la plage, Philopon n'était pas là. Ça l'a beaucoup étonné. Il s'est dirigé vers la cabane, il a ouvert la porte, et là il a vu la jeune femme. Elle était allongée sur un lit de goémon fraîchement coupé. Elle était morte. Et Philopon était agenouillé juste à côté d'elle, mort également, depuis peu de temps, parce que des larmes coulaient encore sur ses joues. Il avait tellement pleuré que son visage semblait comme ciré. Les gens du village les ont enterrés dans le petit cimetière qui était autour de la chapelle, chacun sa tombe. Mais quelque temps après, des cris ont retenti. « Venez voir ce qui s'est passé, venez voir !» Et tout le monde s'est précipité. La tombe de la jeune femme s'était ouverte. Elle avait été parcourue par un long frisson d'hiver. Les galets avaient roulé de chaque côté. « C'est la terre qui ne veut pas la jeune femme qu'on lui a donnée. Elle ne doit pas être baptisée. Allons, ne racontez pas de bêtises !» Refermons tout ça et puis nous verrons bien demain matin. Chacun est redescendu sur la plage, a pris un gros galet et l'a enfoncé bien profondément sur la tombe de la jeune femme. Chacun est rentré chez soi, mais inutile de vous dire que peu d'entre eux ont dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, tout le monde était dans le cimetière bien avant que le soleil ne soit levé. Et là, la tombe était de nouveau ouverte. Elle était béante. Les pierres s'étaient retirées et formaient comme un large cercle autour du corps de la jeune femme qui était remontée à la surface. C'est pas la terre qui veut pas de la jeune femme. C'est la jeune femme qui veut pas de la terre qu'on lui a donnée. Et là, tout le monde a compris. Les gens du village ont pris son corps. Ils sont redescendus sur la plage. Quelques pêcheurs sont allés chercher un canot. Ils ont mis le corps de la jeune femme dedans. Et puis, ils sont partis en direction du lieu de ce fameux naufrage qui s'était déroulé il y a 20 ans. Arrivés sur place, ils ont soulevé son corps. Ils l'ont déposé à la surface de l'eau. Et juste avant qu'elle ne soit avalée par la mer, ils ont cru voir sur son visage comme un léger sourire. Ils sont revenus. Et à ce moment-là, chacun a attendu. Une journée, deux jours, un mois. Mais le corps de la jeune femme n'est jamais revenu. La mère, elle ne rend que les corps dont elle ne veut pas. Quant à Phil Open, il est toujours dans le cimetière. Bon, le cimetière n'est plus autour de la chapelle. Hein. Maintenant, il est beaucoup plus grand. Il est à l'entrée du village. Mais lorsque les gens passent devant sa tombe, chacun se dit qu'après tout, s'il n'est pas remonté, c'est que ça devait être un bon breton.
Ça va faire des histoires.
Vous écoutez Ça va faire des histoires, une émission de Michel Vitoux.
Et maintenant, je vous propose d'écouter Philippe Louvet. Philippe, c'est un jeune vieux conteur normand avec une âme trempée dans le légendaire celte. Il est membre de l'association de conteurs Mille Choses à Dire. Et la Bretagne est pour lui une seconde mère patrie. Et Philippe nous offre ce conte tiré des écrits de Pierre-Jacques Elias, Le bon voleur.
Autrefois, dans chaque village breton, ou plus précisément dans chaque village du pays Bigoudin, il y avait un voleur. Enfin, à Kéribilbeuz, il y en avait un. À cette époque, le métier de voleur était considéré comme aussi respectable que tous les autres. C'était même un des plus difficiles à exercer. Il exigeait de nombreuses qualités. Il fallait être à la fois leste et furtif pour pouvoir se glisser dans des passages étroits, être assez habile de ses mains pour trafiquer une serrure, être assez rapide et discret pour s'échapper en silence et sans laisser de traces. Mais la qualité première, la qualité indispensable, celle sans laquelle il aurait été vain de vouloir exercer ce beau métier de voleur, c'était l'honnêteté. En effet, le bon voleur était en ce temps-là une sorte de juge de paix. Un juge de paix qui aurait tiré sa légitimité non pas d'une loi écrite, mais d'une certaine tradition de solidarité. Son travail consistait à s'introduire de nuit et avec la plus grande discrétion dans une maison aisée. Aisée, enfin, un peu moins pauvre que les autres. À Kéribilbeuz, à part au château, il n'y avait pas vraiment de riches. Et là, il prélevait une tranche de lard salé dans le charnier, une pochette de farine dans le coffre, quelques œufs au poulailler, une andouille dans la cheminée, un torchon ou une vieille chemise dans l'armoire, etc. Ensuite, il allait toujours de nuit et avec autant de discrétion, redistribuer son butin dans les maisons les plus pauvres. Jamais il ne se trompait, il connaissait parfaitement les besoins de chacun et savait où ses prélèvements ne créeraient pas de manque. Il ne gardait pour lui que le strict nécessaire. Jamais, au grand jamais, il ne prenait ni or ni argent, et cela pour une raison très simple, c'est qu'il n'y en avait pas ou très peu à Kéribilbeuz. Bien sûr, tout le monde dans le village savait qui il était, mais tous feignaient de l'ignorer. Il ne serait jamais venu à l'esprit d'un des bénéficiaires de ces larcins d'aller le remercier, et encore moins à une des victimes d'aller se plaindre. Même le curé de la paroisse pensait, sans trop vouloir l'avouer, que ça valait mieux que la charité. Non pas que la charité soit mauvaise, non, mais elle risque d'apporter de l'orgueil à celui qui donne et d'humilier inutilement celui qui reçoit. Notre voleur était en somme considéré comme un ange de la redistribution. Cependant, il arriva un jour qu'une des portes du manoir de Kéribilbeuz fut fracturée. Le coffre-fort percé au chalumeau, les papiers dispersés sur le sol, l'argent du baron dérobé, ainsi que les bijoux de la baronne. Pour un cas aussi grave, et surtout si inhabituel, le baron alla jusqu'en ville porter plainte à la gendarmerie. Deux représentants de l'ordre furent renvoyés sur place, constater l'effraction et le percement du coffre. Une brève enquête de voisinage leur apprit qu'il y avait bien un voleur dans le village, mais que ce ne pouvait en aucun cas être lui le coupable. Même monsieur le curé et monsieur le baron, en personne, témoignèrent de l'honnêteté de leur voleur. Peine perdue. Un brigadier à grosse moustache décida que ce coupable potentiel ferait très bien l'affaire et que l'affaire avait été rondement menée. Notre homme fut donc emmené en ville et mis en prison. Mais il arriva quelque temps de là qu'une autre riche demeure des environs fut cambriolée de la même façon. Le coupable fut bientôt arrêté en possession de l'argent et des bijoux et fut bien obligé d'avouer. Après un court interrogatoire, dont je ne peux ni ne dois révéler les méthodes, il finit par reconnaître aussi le vol de Kéribilbeuz. Le bon voleur, le voleur honnête, le voleur de Kéribilbeuz, notre voleur, fut reconnu innocent. Il allait donc pouvoir sortir de prison. Enfin, il aurait pu, si entre-temps, il était mort de honte et de chagrin dans son cachot. On dit dans le pays que le voleur de Kéribilbeuz fut le dernier bon voleur. Depuis, les voleurs sont tous des canailles et des gibiers de potence. Et il paraît qu'on en trouve même dans les sphères les plus hautes de la société.
La vérité, quand elle a beaucoup voyagé, prend souvent les couleurs de la légende. Et le mensonge tout frais du jour sera peut-être la vérité de demain. Aussi, je vous le demande expressément, n'allez pas chercher ce qu'il y a de vrai ou de faux dans cette histoire. C'est l'histoire d'Œil de mer. Ce gars-là, il n'était pas tout à fait comme les autres. Il habitait au bord de la mer. Il avait une petite maison de pêcheur, comme tous les autres pêcheurs. Seulement lui, il n'allait jamais sur la mer. Lui, il restait là, sur la grève, les deux pieds bien plantés et les yeux fixant l'horizon. Il avait un regard perçant, un regard d'aigle. Le moindre fétu de paille qui dansait sur la crête d'une vague, il l'avait tout de suite repéré. Et il était capable de le fixer pendant une heure sans cligner des yeux. C'est pour ça qu'on l'appelait Œil de mer. S'il y avait un banc de poissons qui apparaissait, tout de suite il l'avait repéré. Alors il mettait ses deux doigts dans sa bouche Il envoya un grand coup de sifflet et les pêcheurs accourés mettaient leur barque dans la mer car ils étaient assurés de faire une pêche miraculeuse. D'ailleurs, quand la mer était basse, il y avait une deuxième chose qu'il aimait beaucoup faire. C'était aller voir ce que la mer aurait pu apporter comme trésor. Il y avait des épaves qui étaient apportées là par les vagues. Mais ce qui l'intéressait, lui, n'intéressait jamais que lui. Un jour même, il avait trouvé une barrique de rhum. Eh bien, il a fait comme d'habitude. Il a mis ses doigts dans sa bouche, il a sifflé, et on a vu les gars accourir, ravis de partager ce précieux nectar. Les mains derrière le dos, en bougonnant quelque chose. Ouais, un sacré bonhomme celui-là. Un autre jour, alors là, il a fait une découverte dont il se serait bien passé. La mère avait apporté sur le sable un cercueil avec son couvercle juste à côté. Alors il a commencé à scruter l'horizon pour essayer de voir s'il apercevait l'occupant. Et il l'a vu. Il a vu le noyé qui flottait entre deux eaux, là. Et la mer était mauvaise. Et les vagues le ballottaient, le ramenaient d'avant en arrière. Et il a rapproché le cercueil en espérant que la mer allait lui ramener l'occupant qu'il aurait mis dans le cercueil. Et ainsi, les choses seraient comme elles devraient être. Mais la mer était capricieuse. Et on a vu, petit à petit, le noyé s'éloigner vers le large et puis disparaître. Alors il est parti précipitamment, il a averti les pêcheurs, il leur a dit « là, il y a un noyé là-bas, il y a un noyé, il faut aller le chercher pour l'enterrer religieusement ». Ils sont partis, ils ont cherché toute la journée, ils ont écumé l'espace, la mer. Ils n'ont rien trouvé. Le soir, ils sont rentrés, ils ont dit, ben écoute, mon pauvre œil de mer, tu sais, ton noyé, ben, il a coulé. Ouais, mais œil de mer, lui, ça ne le satisfaisait pas. Lui, c'était un têtu, c'était un breton. Et le soir, quand tout le monde était couché, il a détaché une barque et il est parti tout seul dans la nuit pour chercher son noyé. Le lendemain, on a retrouvé la barque dans une crique pas très loin d'ici, vide. Et trois jours après, la mère a ramené le corps de ce pauvre œil de mer. Alors on a pris le corps et on l'a mis dans le cercueil. Et il y en a même qui racontent qu'il aurait vu sa propre mort quelques jours avant de mourir. Mais ça, c'est une légende. C'est une histoire, comme il y en a beaucoup chez nous, en Bretagne. Eh bien voilà, l'émission touche à sa fin, mais auparavant, j'aimerais, si vous le voulez bien, avant de vous quitter, vous offrir ce petit poème en breton, très court, enregistré par Pierre Jacques Elias. Et je vous dis au revoir et au mois prochain.
Nemus lecha lebet d'azurentes, nem dies ma evidon me, abrezon nec eum abru. Nemus danvesa lebet d'azifen, nem da lenna tchouchen beru, ar gueilien gwe, avag ahan oermes agebars, abrezon nec eum abru. Nemus bagnela lebet da heulia, nem da gerriou kanob didehus, ad gueet gant ma glauren, aga guz ouz arzelou, et mon noas. Douaronies an trouvardro, a brezonnec et au mabro.
Ça va faire des histoires!
Oh! Ça va faire des histoires!
Ça? Ça va faire des histoires?
Ça va faire des histoires!
Ça va faire des histoires!